Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 23 janvier 2025. Avec vous, Jean-Luc Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports, on parlera aussi du tennis, de l'Open d'Australie. Au sommaire de ce bulletin, les autorités mexicaines construisent des abris de tentes géantes dans la ville frontalière de Ciudad Juarez alors qu'elles se préparent à ce que le président américain Donald Trump tienne sa promesse de procéder à des expulsions massives. En Turquie, la colère monte suite aux allégations selon lesquelles la négligence aurait joué un rôle dans l'incendie d'un hôtel qui a tué 79 personnes et en a blessé 51 autres. En Australie, alors que la police et les politiciens réagissent à une augmentation des attaques antisémites, les crimes haineux contre d'autres communautés sont également en hausse. Les autorités mexicaines construisent des abris de tentes géantes dans la ville frontalière de Ciudad Juarez alors qu'elles se préparent à ce que le président américain Donald Trump tienne sa promesse de procéder à des expulsions massives. Le gouvernement mexicain construit 9 abris dans les villes frontalières pour accueillir les expulsés. Les responsables des abris pour migrants au Mexique affirment que l'arrivée de milliers de migrants pourrait submerger la ville de Tijuana et d'autres villes frontalières, créant une crise. La ministre mexicaine de l'Intérieur, Rosa Rodriguez, a déclaré que les abris temporaires de Ciudad Juarez auront la capacité d'héberger des milliers de personnes et devraient être prêts d'ici quelques jours.
Que el gobierno de México cuenta.
The government of Mexico has the operational capacity to assist our returning brothers and sisters. They are not alone. On this side of the border, we're ready to receive them.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Europe devrait avoir sa propre version du système de défense aérienne israélien Iron Dome. S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos en Suisse, il a exhorté les dirigeants européens à augmenter leurs dépenses de défense. Selon lui, une action collective peut protéger le continent de l'agression russe.
Let's not forget, there is no ocean separating European countries from Russia. And the European leaders should remember this. Russia is turning into a version of North Korea. A country where human life means nothing, but they have nuclear weapons and a burning desire to make their neighbors' lives miserable.
Volodymyr Zelensky estime qu'au moins 200 000 soldats alliés seraient nécessaires pour faire respecter tout accord de paix avec la Russie. Le président américain Donald Trump, quant à lui, a déclaré qu'il imposerait probablement des sanctions à la Russie si Vladimir Poutine refusait de négocier la fin de la guerre en Ukraine. Donald Trump n'a pas encore donné de détails sur les éventuelles sanctions supplémentaires, mais a déclaré qu'il parlerait très bientôt à Vladimir Poutine. Il estime également que l'Union européenne devrait faire davantage pour soutenir l'Ukraine.
The European Union should be paying a lot more than they're paying because under Biden, I mean, we're in there for $200 billion more. Now it affects them more than it affects us. We have an ocean in between, right? Little thing called an ocean. The European Union should equalize We're in there for $200 billion more than the European Union. I mean, what are we, stupid? I guess the answer is yes, because they must think so. But the European Union takes advantage of us tremendously on trade.
En Turquie, la colère monte suite aux allégations selon lesquelles la négligence aurait joué un rôle dans l'incendie d'un hôtel qui a tué 79 personnes et en a blessé 51 autres. Il a fallu 12 heures pour éteindre l'incendie qui a ravagé l'hôtel qui, selon les autorités, accueillait 238 clients en prévision d'une période de vacances chargée. L'Union des ingénieurs et des architectes turcs affirme qu'il semble que les systèmes d'extinction automatique obligatoires n'aient pas été installés. Certains survivants affirment n'avoir entendu aucune alarme d'incendie. La Turquie observe une journée de deuil avec les drapeaux en berne. Le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane à plusieurs pays dès le 1er février prochain, tout en continuant à se montrer ferme sur le plan commercial. Selon lui, la Chine pourrait être frappée d'une taxe à l'importation de 10%, tandis que les droits de douane sur les voisins des États-Unis, le Canada et le Mexique, pourraient atteindre 25%. Il a également évoqué la possibilité d'imposer une taxe à l'importation à l'Union européenne. Donald Trump a ordonné aux agences gouvernementales d'enquêter sur les relations commerciales et de faire rapport d'ici le 1er avril. Les partenaires commerciaux des États-Unis ont répondu qu'ils ne voulaient pas de guerre commerciale. Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que la position de la Chine
We always believe that there is no winner in a trade war or a tariff war, and China always firmly upholds its national interests. We are willing to maintain communication with the US, properly handle differences, expand mutually beneficial cooperation, and promote the steady, sound, and sustainable development of China-US relations.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que l'accord de défense AUKUS restait sur une base solide avec l'administration de Donald Trump, désormais au pouvoir aux États-Unis. Madame Wong a rencontré son nouvel homologue américain, Marco Rubio, à Washington. Elle déclare que la relation économique entre l'Australie et les États-Unis et les minéraux critiques ont été les principaux sujets discutés. AUKUS a été lancé pendant le mandat de Joe Biden. Madame Wong affirme que les commentaires que Marco Rubio lui a fait en privé reflètent ce qu'il a fait lors de ses audiences de confirmation.
AUKUS is an investment in security and stability in the region. It's a demonstration of the way in which partnerships can be utilized to improve and enhance the security of the region and of the countries involved. And I think it's been really clear that the Trump administration understands the strategic imperative around AUKUS, which is why the government is so committed to it.
En Australie, alors que la police et les politiciens réagissent à une augmentation des attaques antisémites, les crimes haineux contre d'autres communautés sont également en hausse. Les données recueillies par le registre de l'islamophobie montrent que les incidents ont augmenté de plus de 500% depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre de 2023, avec plus de 900 rapports déposés depuis octobre 2023. L'envoyé spécial pour la lutte contre l'islamophobie, Aftab Malik, a déclaré sur SBS que ses consultations à travers le pays ont révélé un paysage jonché de haine, de violence et d'humiliation.
There is no worse hate. Hate is hate. And it's important to understand that both anti-Semitism and Islamophobia are repugnant. And importantly, that both the Muslim and the Jewish communities, they face common fear and anxiety. And you'll quickly find that that hate is underpinned by a demonization or dehumanizing idea that strips both Muslims and Jews from their humanity.
La police fédérale australienne affirme qu'il est important que le public soit informé de son enquête sur la possibilité que des criminels aient été payés pour commettre des attaques antisémites en Australie. L'incendie criminel d'une crèche proche d'un lieu de culte est le dernier d'une série d'attaques avec des voitures incendiées, des graffitis et une synagogue incendiée. Ces derniers mois, les forces de l'ordre enquêtent toujours sur les motivations derrière ces attaques. Le commissaire de la police fédérale australienne, Rhys Kershaw, affirme qu'il n'est pas clair d'où vient l'argent.
So part of our inquiries include who is paying those criminals, where those people are, whether they are in Australia or offshore, and what their motivation is. There is still a lot of investigative work to be done, and we are not ready to rule anything in or out. Crime is globalised. Criminals are using anonymizing technology, and we know 70% of criminals who target Australia are offshore.
Le trésorier fédéral a déclaré que le Parti travailliste n'imposerait pas de nouveaux impôts lors des prochaines élections, évoquant le premier anniversaire de l'annonce par le gouvernement des changements apportés à la troisième phase de réduction des impôts. Jim Chalmers a exclu tout changement supplémentaire. Il a déclaré que le parti se concentrait sur un allègement ciblé.
Some of these numbers we're seeing are a reflection of the very real and genuine cost of living pressures that people are under. And we do more than acknowledge that. We're helping people with the cost of living in all of the ways that we've run through this morning. And again, we know even as we make quite remarkable progress in the economy overall, inflation down, wages up, unemployment low, that doesn't always translate into how people are feeling and faring.
Le gouvernement albanaise a annoncé un financement supplémentaire pour les initiatives de prévention et d'intervention visant à lutter contre la violence sexiste dans le territoire du Nord. Le financement fait partie du plan pour l'Australie centrale et verra près de 9 millions de dollars alloués à 4 organisations d'Alice Springs et des communautés environnantes. La ministre des Services sociaux, Amanda Wishworth, a déclaré que le financement témoigne d'un engagement envers l'Australie centrale et les communautés des Premières Nations.
This is really important prevention work in family and domestic violence, because what it does is it supports the legal understanding, for example, of the new laws that have come in, such as coercive control and consent. Over the last 10 years since this program was first developed, there's been new laws to protect people, particularly women.
Le prince Harry a remporté une victoire contre le groupe de presse britannique de Rupert Murdoch après que l'éditeur a réglé son procès et accepté de payer des dommages et intérêts substantiels. Le fils cadet du roi Charles poursuivait News Group Newspapers, alléguant que les journaux avaient illégalement obtenu des informations privées le concernant entre 1996 et 2011. Des sources proches du dossier affirment que le règlement s'élève à plus de 19 millions de dollars, principalement en frais juridiques. On passe à la météo pour ce jeudi en Australie, à Perth, maximale de 39 degrés, Adélaïde 26, Melbourne 21, Hobart 17, Canberra 25, Sydney 25, Brisbane 33, Darwin 33 et à Alice Springs, maximale de 44 degrés. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Un iconoclaste non conformiste.
Deuxième jour de l'Open d'Australie, sur place Marianne Murat et à le choc Alcaraz, Djokovic en quart de finale. Un seul s'est qualifié pour les demi évidemment, Marianne.
Et oui, c'était tellement serré dans les deux premiers sets, on ne pouvait pas prédire la fin du match en Noël. Puis dès le troisième set, Novak Djokovic a fait briller sa réputation. Il a repris le dessus. Victoire en 4-7, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Un jeu incroyable entre les deux joueurs que 15 ans séparent hein, tout de même. Un jeu digne d'une finale. C'est ce que Novak Djokovic a dit sur le court à la fin de ses quarts. Le niveau de jeu était épatant, Jean-Noël. On écoute Carlos Alcaraz, 21 ans, après sa défaite, malgré un magnifique combat.
Honestly, I felt like I was controlling the match. I let him get into the match again, and that's, I'm gonna say that was the biggest mistake that I made today. In the second set, I had to play a little bit better, just to push him to even more to the limit. He saw that he had issues just moving a little bit in the second set, and I had to push him a little bit or a bit more to the limit, and I didn't do it. So after that, I think he started to feel better. I'm playing such a great level. So that was my biggest mistake today.
Voilà, c'était Carlos Alcaraz battu par Novak Djokovic donc en quart de finale de l'Open d'Australie. 50e demi-finale d'un grand chelem pour Novak Djokovic, lui qui a remporté le tournoi melbournien 10 fois déjà. Vendredi en demi-finale, il affrontera le numéro 2 Alexander Zverev, tombeur de l'américain Tommy Paul. Et la bonne nouvelle, Jean-Noël, pour les messieurs, c'est que les quarts se sont joués mardi et les demi vendredi. Donc ça veut dire un jour supplémentaire de repos et d'entraînement. Novak Djokovic.
Well, I mean, it's definitely going to be challenging from every aspect. I mean, I'm playing Zverev, who is in a great form and he's going for his first Grand Slam, and he's been close. And I think, I mean, I've seen him play, and I practice with him as well here. I mean, I think he loves the conditions. He's got big serve, and it just he's super dangerous opponent on this surface against anyone. So the extra day with no match comes at a good time. As I said on the court, I have to assess the situation tomorrow when I wake up. I'm going to try to do as much as possibly can with my recovery team, with my physio today, tomorrow, in the next few days.
Alors Marianne, un mot sur les autres quarts de finale?
Alors on vient de le dire, hein, Alexander Zverev a éliminé Tommy Paul en 4-7, un match très serré là aussi sur les deux premiers sets. Domination de l'Américain au troisième, mais Sacha a largement dominé le dernier set pour gagner sa place en demi. Hier, l'Américain Ben Shelton a eu raison de l'Italien Lorenzo Sonego en 4-7 également. Et le match de la soirée, on peut parler de véritable boucherie, Jean-Noël. Yannick Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre, n'a laissé aucune chance à Alex de Minaur, pourtant qui jouait à domicile. Hein. 3-7 gagnant, 6-3, 6-2, 6-1, le tout en moins de 2 heures. On écoute le chouchou australien après sa défaite.
It's been too many times playing him and seeing the same thing, so I'm not even surprised anymore when I face him and matches like these happen. So he was very good today, I think. With the conditions a little bit slower and a little bit later at night, it's pretty tough to make him miss or hurt him, and yeah, he was bloody good tonight.
Du côté des dames, la numéro 1, Aryna Sabalenka, reste dans la course après sa victoire en 3-7. L'Espagnole Paula Badosa a fait tomber l'Américaine Coco Gauff en 2-7 gagnant, 7-5, 6-4. Madison Keys, tombeuse d'Elina Svitolina, la femme de Gaël Monfils, en 3-7. Et enfin, Iga Swiatek n'a fait qu'une seule bouchée d'Emma Navarro, 6-1, 6-2. On écoute la numéro 2 mondiale, humble, après sa victoire.
Well, for sure, I'm proud that I've been doing, the same kind of work with good intensity and just, you know, pushing my opponents from the beginning of the matches. And for sure, today was, I would say, tougher than the score says, but I'm happy that I'm in the semis.
Et puis Marianne, on l'a dit, Novak Djokovic contre Alexander Zverev en demi-finale demain vendredi. Mais quelles sont les trois autres affiches?
L'autre tête d'affiche, messieurs, c'est Yannick Sinner, Ben Shelton. Et côté dames, c'est ce soir que ça se joue. Arina Sabalenka, qui a déjà gagné l'Open d'Australie 2 fois, joue Paula Badosa. Et Iga Swiatek, qu'on vient d'entendre, elle affronte Madison Keys. On parlait plutôt du jour supplémentaire de repos pour Novak Djokovic. Eh bien, Jean-Noël, sachez que c'est l'inverse pour les dames. Celles qui ont joué hier, mercredi, se retrouvent ce soir en demi-finale, ce qui peut être extrêmement dur psychologiquement et physiquement, bien sûr.
Et puis enfin, Marianne, ce week-end, ce sont les finales qui marquent la fin de cet Open d'Australie de 2025.
Et oui, déjà dimanche soir, la finale dame, elle, aura lieu samedi. La finale messieurs, c'est dimanche. Et c'était encore une magnifique édition, malgré l'absence de Rafael Nadal cette année. Et comme c'est notre dernier journal des sports, Jean-Noël, je voudrais rajouter un mot. La compétition n'est pas finie, bien sûr, c'est encore jusqu'à dimanche. Mais je voudrais féliciter nos joueurs tricolores. Ils se sont bien défendus cette année. 2 joueurs français en 8e de finale tout de même. Et Gaël Monfils, vétéran du tournoi, 38 ans et 4 mois, toujours exceptionnel. On leur tire notre chapeau.
Merci Marianne et bon retour à la rédaction.
Merci Jean-Noël, à bientôt.
Eh bien, après le tennis, voici le reste de l'actualité sportive de ce jeudi. Le foot, la Ligue des Champions, 7e journée. Il y avait plusieurs matchs hier, dont la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City et la défaite de Brest face à Shakhtar Donetsk. Bilan de tous les matchs avec Thomas de Saint-Léger et Sylvie Berruet pour RFI.
Le Real a pris son temps, mais ça y est, c'est fait. Barrage assuré après une victoire aux dépens de Salzbourg, un festival même. 5-1 doublé des Brésiliens Rodrigo, Vinicius et but de Kylian Mbappé, 16e du classement général. Les Madrilènes joueront contre Brest la semaine prochaine avec l'objectif d'enchaîner une 3e victoire consécutive et d'obtenir le meilleur classement possible. Le top 8, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale, semble un peu lointain, mais une 9e, 10e, voire 11e place pourrait leur garantir un barrage moins compliqué. Brest, on en parlait, s'est en revanche incliné 2-0 face au Shakhtar Donetsk. Les coéquipiers de Camori Doumbia glissent à la 13e place, mais restent devant le Real, donc, mais aussi devant le Bayern Munich étrier. C'est la surprise de la soirée par le Feyenoord Rotterdam 3-0. Le Feyenoord, lui aussi, assuré d'être au prochain tour, tout comme le Celtic Glasgow, vainqueur 1-0 des Suisses de Berne. Arsenal, de son côté, devrait sauter la case barrage. Les Gunners sont solides 3e après une victoire nette face au Dynamo Zagreb 3-0. Enfin, bonne soirée également pour les clubs de Milan. L'Inter l'a emporté 1-0 sur la pelouse du Sparta Prague et reste bien placé 4e. Victoire sur ce même score du Milan AC face à Gérone. Les Rossoneri sont 6e de ce classement.
Et on revient sur les matchs de mardi. Lens battu par Liverpool 2-1. Le manager de Liverpool, Arne Slot, estime que le nouveau format de la Ligue des Champions pourrait ne pas récompenser suffisamment les équipes ayant réussi la phase de groupe. Des buts de Mo Salah et Harvey Elliott ont donné à Liverpool une victoire de 2 buts sur Lille, les plaçant en pole position avec un match à jouer pour terminer à la première place de la phase de groupe à 36 équipes. Les équipes terminant parmi les 8 premières accèdent directement aux 8e de finale, évitant ainsi la première phase à élimination directe en 2 manches. Slot dit que c'est la chose la plus importante, mais il a aussi rajouté qu'avec le nouveau format, toutes les équipes ne jouent pas contre le même adversaire, ce qui signifie que Liverpool pourrait toujours avoir un tirage au sort difficile. On l'écoute.
We are in a new format where some teams are high in the league table because they had a lucky draw, or some teams are low because they had a very difficult draw. So it's far off to say that it's an advantage to be one or two.
Et maintenant, l'analyse de tous ces matchs de mardi avec Olivier Pron pour RFI.
33 buts en 9 matchs, dites donc, et quelques certitudes de plus en vue de la suite de la compétition. Les résultats marquants de cette avant-dernière journée, donc partie 1. Bah Monaco d'abord, hein, parce que la victoire des hommes du Rocher sur Aston Villa leur assure justement d'être certains à présent de poursuivre l'aventure après deux défaites dans la compétition sur les deux derniers matchs. Succès 1-0 grâce au défenseur champion d'Afrique ivoirien Wilfried Tsingo. Défaite en revanche pour Lille à Liverpool, c'était attendu. Défaite 2-1 avec le 22e but cette saison de Mohamed Salah pour les Reds, mais Lille de toute façon était qualifié déjà. Buteur aussi Lookman, le Nigérian, dans le large succès de l'Atalanta, 5-0 face aux Autrichiens de Sturm Graz. Enfin deux résultats renversants, la victoire de Barcelone 5-4 au Benfica Lisbonne après avoir été mené 4-2, et puis 2-1 en faveur de l'Atlético Madrid longtemps à 10 face au Bayer Leverkusen qui menait 1-0.
Il y avait un match de la Coupe de France hier soir, 16e de finale, avec la victoire de Dunkirk contre Haguenau, 3-1. Rigobert Song est le nouveau sélectionneur de la Centrafrique, comme nous l'explique Joël Wadem pour RFI.
La nomination de Rigobert Song a été globalement bien accueillie dans les milieux du football camerounais. Martin Tungupile, actuel entraîneur adjoint des Lions Indomptables, n'est pas surpris du retour de l'ancien capitaine du Cameroun sur un banc de touche.
Il a un grand nom en tant que footballeur. Il a été chez les Lions. On est satisfait qu'il ait eu une nomination. Ça va lui faire un autre défi et ça va rentrer dans le travail de l'entraîneur.
Jean-Claude Pagal, ancien défenseur des Lions Indomptables, estime que l'ex-entraîneur du Cameroun sera face à un immense défi.
Au niveau où il était avec le Cameroun, se retrouver en Centrafrique, il a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a tout à construire. Je ne sais pas s'ils ont un championnat, ils ont autant de joueurs à l'étranger pour pouvoir rivaliser un peu avec le niveau actuel. On aurait aimé qu'il trouve un pays au niveau mondial un peu plus intéressant dans les 30 ou 40, à lui de travailler et de se faire plaisir surtout.
Rigobert Song, qui a coaché pendant 2 ans les Lions Indomptables, a amené l'équipe en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde. Il a par ailleurs qualifié les 15 champions d'Afrique à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Avant de prendre en main la sélection A du Cameroun, il a entraîné les A-primes et les moins de 23 ans, mais sans remporter aucun titre.
Un mot du championnat du monde de handball masculin qui se déroule en Croatie, au Danemark et en Norvège. Mardi, la France a battu la Hongrie 37-30. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. À 13h29 sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français.
Vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Cédric Tibérien sur les ondes de Radio SBS en Australie. Bonjour et bienvenue à nouveau.
Merci beaucoup, bonjour.
Et vous êtes ici en Australie dans le cadre du Sydney Festival pour présenter The Cage Project, qui est aussi présenté par Musica Viva. Peut-être d'abord, parlez-nous de ce spectacle au Carriage Works. Et ce spectacle aura lieu le 24 et le 25 janvier prochain.
Alors, c'est toujours assez difficile de trouver les mots justes pour décrire ce spectacle, parce que c'est quelque chose de véritablement unique, que je n'ai jamais fait avant, qui en gros, part d'une œuvre pour piano qui a été écrite par John Cage dans les années 40, qui s'appelle donc Sonate et Interlude pour piano préparé. Donc le piano préparé, c'est un piano dans lequel Cage a demandé qu'on ajoute un certain nombre d'objets pour modifier la nature de l'instrument. Donc en fait, on a un instrument qui sonne vraiment comme un nouvel instrument. L'idée, c'était de créer de nouvelles sonorités. Et cette œuvre-là, c'est une œuvre métaphysique absolument extraordinaire, cyclique de 60-75 minutes, ce qui nous emmène vraiment dans des très hautes sphères métaphysiques et de réflexion sur les différentes émotions qu'on peut ressentir, et notamment la tranquillité qui est le but ultime, le nirvana en quelque sorte. Et donc ça, c'est vraiment l'œuvre de départ. C'est une œuvre que j'adore, que j'ai jouée souvent, et qui est vraiment un des chefs-d'œuvre du XXe siècle dans le répertoire de piano. Et donc il y a eu cette rencontre avec l'artiste Mathias Schack-Arnott, qui est un percussionniste, qui est un percussionniste, compositeur, magicien en quelque sorte, qui arrive à donner vie à en trois dimensions, à des objets musicaux absolument extraordinaires. Et donc il y a eu une réflexion sur ce qu'on pouvait faire autour de ça, et donc il a créé une sorte d'instrument parallèle au piano préparé, qui est matérialisé par un magnifique mobile très, très grand, hein, qui fait 7 ou 8 mètres de haut, qui est suspendu au-dessus du piano, et avec lequel le piano va progressivement interagir en direct. Alors, avec de grandes technologies cachées derrière, mais on a vraiment l'impression que c'est de la magie, puisque progressivement, il va y avoir une sorte de dialogue entre le piano et cet objet musical qui est d'une extrême beauté à regarder. Et puis progressivement, il y a une sorte de connivence et d'équilibre entre les deux qui va se créer pour créer un nouvel objet musical. Donc l'idée, c'était en gros d'ajouter une sorte de couche supplémentaire musicale, de dimension supplémentaire à l'œuvre de John Cage.
Un mot sur le directeur artistique Paul Kilia, c'est un Australien également ?
Oui, Paul Kilday, oui, c'est un Australien. Alors, c'est un de mes amis les plus chers. Il a longtemps travaillé à Londres, et c'est lui qui m'a fait venir à Londres pour la première fois. Et ça a été extrêmement important dans le développement de ma carrière. Et c'est également la personne qui m'a fait venir pour la première fois en Australie, en 2004, au Festival de Perth, la première fois. Et depuis, j'y suis revenu en Australie. Je suis revenu vraiment très, très régulièrement. C'est vraiment un pays que je tiens vraiment très, très, très haut dans mon cœur. Et c'est lui, effectivement, qui a été l'instigateur de cette rencontre entre Mathias Schack-Arnott et moi-même. C'est lui qui s'est dit, mais je suis certain qu'on peut faire quelque chose avec ces deux artistes. Et il avait parfaitement raison. La rencontre a été d'une richesse époustouflante.
Est-ce que vous aviez fait partie de cette première de ce spectacle, The Cage Project, qui a déjà eu lieu au Adelaide et au Perth Festival en 2023?
Oui, absolument. Voilà, absolument. Il y a eu tout un travail en amont. Alors, d'abord à distance, puisqu'évidemment, Mathias était en Australie, moi en Europe. Mais je les ai rejoints assez tôt dans le projet. On a pu travailler beaucoup sur place, avec vraiment l'équipe technique également. Il y a d'autres personnes, il y a un ingénieur, il y a un informaticien. Enfin, c'est un travail de longue haleine et très très complexe. On a eu toute une période très très intense pour créer le spectacle, pour décider un petit peu comment faire interagir cet objet au-dessus du piano. Et on a fait la première ensemble, bien sûr, à Perth, il y a exactement 2 ans.
Et vous avez gardé de bons souvenirs et peut-être un bon accueil du public australien?
Oh oui, alors là, le public australien, c'est un public que j'adore. Je suis venu très souvent, que ce soit à Perth, Adelaide, Brisbane, j'en oublie d'autres, Melbourne évidemment. Et j'ai joué vraiment dans beaucoup d'endroits avec beaucoup de musiciens également australiens avec qui j'ai pu beaucoup, beaucoup échanger. Et j'ai toujours un plaisir extrême à venir ici. Les gens sont curieux, les gens sont ouverts à la nouveauté, et là très certainement ce spectacle c'est quelque chose que personne n'aura jamais vu de sa vie. C'est vraiment moi-même en tant que musicien qui aime les ovnis en quelque sorte, c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé vivre dans ma vie de musicien, c'est vraiment une expérience unique.
Et d'après ce que je comprends, après Sydney, vous allez vous rendre à Canberra et également à Melbourne.
Voilà, bah, l'idée c'est de faire un petit peu tourner ce spectacle. Là, effectivement, il a été conçu ici en Australie et il restait c'est un certain nombre de grandes villes à explorer. On a vraiment envie de partager cette expérience. Je pense que c'est, en plus, c'est un spectacle qui est ouvert à tout type de public. C'est-à-dire que, bien sûr, il pourrait y avoir peut-être des gens qui sont spécialisés dans la musique de Cage. Il n'y en a peut-être pas énormément, mais bon, ou des gens qui adorent John Cage, qui seront comblés. Mais je pense que c'est vraiment ouvert aussi à des personnes qui ne sont pas musiciennes, parce que finalement, ce spectacle n'est pas vraiment un concert. C'est plus une sorte d'expérience collective, à la fois de méditation, de questionnement et de relation à la beauté. Donc c'est vraiment vraiment une œuvre presque universelle. Donc voilà, on tourne avec en Australie, on espère un jour l'emmener également, l'emmener ailleurs, en Europe peut-être, ce serait formidable.
Un petit mot sur vos autres projets après la tournée australienne?
Alors, je vais pendant mon séjour australien, on a réussi à inclure un récital au centre culturel de Oukaria, qui se trouve à côté d'Adélaïde. Donc là où je ferai un récital, je crois le 2 février. Et ensuite, moi j'ai des concerts en Italie au mois de février. Je vais aux États-Unis au mois de mars pour jouer avec l'orchestre de Detroit. J'ai des concerts de musique de chambre. J'ai un disque qui va sortir au mois de février avec ma grande amie Alina Ibrahimova, qui est ma partenaire de musique de chambre depuis plus de 20 ans. Donc c'est une année riche en événements.
Cédric Thiberguien, merci à vous et bonne continuation en Australie.
Merci infiniment du temps que vous m'avez accordé.
Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On continue le programme et on part à la rencontre d'un photographe qui a couvert tous les Dakar, 47 éditions du Dakar, Eric Vargioliou, qui est avec notre collègue Christophe Mallet.
Vous êtes avec SBS French.
Je m'appelle Eric Vargioliou, j'ai 74 ans et j'ai participé à tous les Dakar ainsi que les deux Abidjan-Nice qui ont été les épreuves fondatrices du Paris-Dakar, puisque Thierry Sabine était concurrent et puis il y a eu l'histoire, il s'est perdu, etc. Et après il a créé le Paris-Dakar.
Une histoire incroyable. Aujourd'hui, on est en Arabie Saoudite. Le Dakar a une histoire incroyable et vous avez une histoire incroyable à l'intérieur de ce Dakar. Comment on vit on sent que ça coule dans vos veines, le Dakar.
Bah, tu peux pas rester indifférent quand tu as passé autant de temps sur le Dakar, que tu l'as vraiment vécu de l'intérieur et où il t'est arrivé mille histoires ou anecdotes ou situations. Tu peux pas rester indifférent malgré toi, ça rentre. Et ça fait partie de ta construction de ta vie, comme d'autres événements dans ma vie. J'ai pas fait que des Dakar, j'ai fait entre 400 et 500 Grands Prix de Formule 1, j'ai fait des Grands Prix moto, j'ai fait des Camel Trophy, j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine. Et tout ça, bah, ça rentre, et puis un jour, ça te construit, ça fait partie de ta personnalité, c'est comme ça. Il n'y a rien de glorieux, je me suis trouvé là, je l'ai fait. C'est une mission quand même, c'est-à-dire que on est souvent allé au bout de nous-mêmes. Et c'est-à-dire que moi, il fallait que je parte la nuit avec les infos qu'on avait, aller trouver un bon spot, faire les photos, revenir. Et tous les jours, il fallait remplir une mission. Mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, tu es là pour faire ta mission, qui sont les photos. Tu le fais. Et c'est pas un effort, c'est que tu n'as pas le choix. Donc, tu ne te poses pas la question. C'est comme ça. Et c'est pas un effort. Et tu es content de l'avoir fait. Un Dakar, pour moi, c'était 12, 13, 14 jours de reportage. Il fallait en réussir le plus possible, en louper le moins possible. Chaque jour, tu cochais une coche. Ok, c'est bon, aujourd'hui, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Pas tout seul, hein, avec des photographes. Bon, j'étais un peu le leader, puisqu'il en faut un toujours quand t'es ça. Et puis, je te dis, c'est passé tout seul. Après, tu le digères et puis il y a sûrement des choses qui rentrent en toi et que tu retiens pour ta vie.
Quand on a fait autant de Dakar, vous avez pu avoir du recul sur l'événement aujourd'hui en Arabie Saoudite. Oui. On a beaucoup parlé, nous, avec David Castera, sur la notion d'ADN du sable et des dunes saoudiennes par rapport à l'Afrique. C'est quoi votre vision sur la progression du Dakar? Parce que c'est très beau d'avoir un rallye qui est encore là aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'il a gardé cette essence par rapport au début?
Ben, si tu veux, pour moi, quand tu es sur la piste, là, il n'y a plus Dakar, Afrique, Amérique du Sud ou quoi. T'as la réalité du terrain. Elle triche pas. Donc, t'as toujours les ingrédients. Et c'est ça. Et David est la personne idéale de par son parcours, son expérience. Il était pilote, il est organisateur, il connaît le Dakar sous toutes ses formes et il a gardé l'ADN. Même si on dit, ah, c'est l'Arabie Saoudite, c'est ceci, c'est cela. Amérique du Sud par rapport à l'Afrique, tu compares pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai retrouvé les ingrédients propres du Dakar, c'est que quand t'es dedans, t'es tout seul et t'es dedans. Et alors, même s'il y a des moyens autour, c'est pas important quand t'es face là et puis que tu pelles pendant des heures ou quoi, ou que tu répares, ou que tu passes une nuit dans le désert, tu vis l'aventure. Et ça, pour moi, ça reste une. Chacun à son niveau, si tu veux, l'aventure représente pour chacun une chose différente. Mais je vois, moi, on vit quand même dans un monde hyper d'assisté, comme des assistés. Je pense que cette formation, si un jour, ce qu'on a appris, si un jour on est dans des difficultés, on sera un petit peu armé, et c'est plutôt pas mal. Je veux dire, humainement, moi j'ai fait plein de rencontres marquantes et qui m'ont construit.
Bien entendu, Thierry Sabine, c'est quelqu'un qui était à l'essence. On sent encore, si on est assez vieux, on se rappelle de cette période-là. Il était comment comme personne? Et il avait vraiment cette notion d'aventure qui coulait dans ses veines?
Ah, écoute, moi, Thierry Sabine, je l'avais connu auparavant. Il était, je dirais, un peu dans le showbiz. Mais
c'était la période aussi. Hein.
Oui, c'est la période. Donc, il y a eu une aventure, le premier qui était à Abidjan-Nice, qui sont les épreuves fondatrices, organisées par Jean-Claude Bertrand, qui était un aventurier un peu baroque, mais qui a créé la base du Paris-Dakar. Il y a eu une bande de jeunes aventuriers issus de tous les milieux, dont Thierry Sabine, qui en a fait partie. Bon, il a eu son aventure où il s'est perdu, etc., la légende. Mais lui, qui était un homme de show et de spectacle, il a senti qu'il y avait un produit, il y avait quelque chose là-dedans. Et donc, il a créé le Paris-Dakar 2 ans après. Je crois qu'il y a eu une interruption d'un an. Et il en a fait un très beau produit. Et on a retrouvé toutes les valeurs du Dakar au quotidien. C'est-à-dire que tu peux en parler comme tu veux, mais quand t'es dedans, toi, tu vois. Si t'es impliqué dedans, t'es comme les autres. Hein. On est tous pareils, là. Hein. On est à poil devant le reste. Et chacun le vit à sa façon. Alors il y en a qui adorent, moi j'ai adoré, j'ai appris sur le tas, je dirais, et puis t'en as, c'est pas leur truc, faut mieux pas qu'ils le fassent, parce que la représentation extérieure du Dakar, ça a été très controversé, mais ça reste tu peux la vivre comme une aventure humaine qui t'apprend des choses sur toi, et ça c'est extrêmement important.
Hier soir sur le podium, vous avez eu une médaille de finisher. Il y a eu plein de choses qui ont été données. Oui. C'est votre dernier Dakar? Sûr?
Oui, je l'ai annoncé. Si tu veux, à un moment, tu vois, il faut boucler la boucle. J'ai eu des problèmes de santé sérieux. J'ai voulu quand même continuer parce que c'est une aventure qui me tient à cœur, qui m'a beaucoup aidé personnellement dans ma construction. Elle est ce qu'elle est, mais je suis content d'avoir vécu tout ça et d'avoir appris tout ça. Mais à un moment, faut arrêter, tu vois, faut pas faire le Dakar de trop.
Ouais, voilà, bon, on va finir là-dessus. Merci bien.
Je t'en prie.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Eh bien, on arrive presque à la fin de cette émission, mais on a le temps de vous présenter le cinéaste français Bertrand Blier, qui est décédé à l'âge de 85 ans. Son portrait avec Sophie Torlotin pour Radio France Internationale.
Un iconoclaste non conformiste, Bertrand Blier s'est attaqué au tabou de la société française et à la notion de moralité. Marqué par l'héritage de son père, l'acteur Bernard Blier, il se distingue de ses contemporains de la nouvelle vague par son humour cynique et subversif. C'est avec son deuxième long métrage de fiction, Les Valseuses, comédie érotique autour de deux marginaux en cavale, qu'il se fait un prénom. Frappé d'une interdiction aux mineurs, le film attire plus de 3 millions de spectateurs en salle en 1960. Et impose de nouveaux visages, Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. Il révèle de futurs monstres sacrés ou utilise les acteurs à contre-emploi, comme Michel Blanc que Bertrand Blier dirige dans Tenue de soirée en 1986 dans le rôle d'un travesti amoureux de Gérard Depardieu. Ou encore deux ans plus tard, Carole Bouquet dans Trop belle pour toi. Immense succès là encore, même si la grossièreté des dialogues et la crudité des séquences font scandale. Le film reçoit le prix spécial du jury au Festival de Cannes, ainsi que 3 Césars. Ces films restent des classiques, même si, revus à la lumière du mouvement MeToo, c'est désormais plus leur aspect misogyne que provocateur qui est mis en avant.
Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce 23 janvier. Les autorités mexicaines construisent des abris de tentes géantes dans la ville frontalière de Ciudad Juárez, alors qu'elles se préparent à ce que le président américain Donald Trump tienne sa promesse de procéder à des expulsions massives. En Australie, alors que la police et les politiciens réagissent à une augmentation des attaques antisémites, les crimes haineux contre d'autres communautés sont également en hausse. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés pendant une heure. Prochain rendez-vous le week-end, samedi et dimanche à 13h, mardi, jeudi également à 13h. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram, téléchargez l'application SBS Audio et abonnez-vous à SBS French. Belle fin d'après-midi, à bientôt.
D'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.